Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Éric Emmanuel Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est un grand plaisir, un grand bonheur de parler avec vous d'un livre qui vient de paraître et dont le titre est « Juste après Dieu, il y a papa ». C'est un livre qui parle de Mozart et de sa relation avec son père qui était pédagogue, lui aussi musicien. Mais avant, il y a eu en 2005 un livre qui est sorti sur Mozart et dont le titre est « Ma vie ». Avec Mozart. Quel lien faites-vous, puisque bon, c'est 20 ans après, entre Ma vie avec Mozart en 2005, qui est paru en 2005, et ce livre dont nous allons parler aujourd'hui, Juste après Dieu, il y a papa, selon la vie de Mozart.
Ce que je racontais dans Ma vie avec Mozart, c'est que Mozart m'a sauvé la vie lorsque j'avais 15 ans. Et depuis, il ne m'a pas quitté, il a continué à me guider, à m'inspirer. La preuve d'ailleurs, c'est que de nouveau, j'écris sur lui. Effectivement, Mozart m'a sauvé la vie parce que à 15 ans, je faisais cette dépression qui frappe souvent les adolescents avec cette peur de rentrer dans la vie adulte, cette peur d'avoir un corps, cette peur d'avoir des désirs. Et j'avais envie de fuir. Et en plus, envie de fuir de la manière la plus radicale. Pas en faisant une fugue, pas en buvant ou en me droguant, mais en me suicidant. Mmh. J'avais vraiment prévu ça. Et fort heureusement, c'est Mozart qui a arrêté mon geste, puisque une après-midi, une professeure de musique avait choisi 5 élèves pour les emmener assister à des répétitions à l'Opéra de Lyon, les répétitions des Noces de Figaro, l'opéra de Mozart. Et j'étais dans le noir de la salle, et puis tout d'un coup, une dame est rentrée sur scène, et elle s'est mise à chanter. Et là, le temps du morceau, en 4 minutes et demie, j'étais guéri. Ce qui m'était rendu, c'était toute la beauté du monde. C'était comme si j'avais une encre qui me tenait au fond d'une eau trouble et que je remontais à la surface pour voir le soleil, pour voir la beauté du ciel, pour voir la nature. J'étais réconcilié avec la vie. C'était le désir de vivre qui m'était rendu. Et donc Mozart, ça a toujours été pour moi beaucoup plus que Mozart, beaucoup plus qu'un musicien. C'est véritablement, oui, d'abord un sauveur et ensuite un guide, quelqu'un qui me met du côté du beau, du côté de l'aimable, du côté du joyeux et qui me maintient dans une énergie vitale essentielle.
Alors, le titre, juste après Dieu, il y a papa, le petit Wolfgang Amadeus Mozart. Amadeus, n'est-ce pas la traduction de Gottlieb, qui veut dire en allemand « aimé de Dieu » viendra le temps où l'enfant prodige s'élève plus haut que le maître et l'admiration se mue en dédain. Et alors c'est la douleur, l'incapacité de vivre du père, parce que c'est son père, au-delà de sa fatigue, ce qu'il voulait, c'est guider cet enfant qui, d'évidence, était génial.
Oui. Il n'y aurait pas eu de Wolfgang Amadeus Mozart sans Léopold Mozart. Non pas seulement parce qu'il lui a donné la vie avec sa mère, Anna Maria, mais aussi parce qu'il a voulu donner à ses deux enfants, dont sa fille, qui était l'aînée, et qui avait quelques années de plus que Mozart, deux enfants seulement qui ont survécu sur les 7, hein, parce qu'à l'époque, la mortalité infantile était énorme. Mm-hmm. À ses deux enfants, filles et garçons, il a voulu donner une éducation comme lui n'en avait pas reçu. Il leur apprenait l'histoire, la géographie, les langues, et la musique. Et dans les deux cas, il découvre qu'il a des enfants extraordinairement doués pour la musique. C'était son métier, hein, bien sûr. Et Nannerle, l'aînée, est rapidement une virtuose du clavecin et puis du piano. Et le petit, Wolfgang, est carrément un génie aussi de la composition. Parce que dès l'âge de 4-5 ans, il commence déjà à écrire de la musique. Alors, donc c'est ce père qui révèle cet enfant à lui-même et qui ensuite, comme vous le disiez, a l'humilité de vouloir lui apporter ce qu'il y a de meilleur. C'est-à-dire que lorsque Wolfgang a 10 ans, il se rend compte que lui, en tant que musicien professionnel, il n'a plus rien à apprendre à son fils. Et donc, à ce moment-là, il décide de nouvelles tournées en Europe pour que son fils rencontre les plus grands musiciens et donc poursuive son instruction musicale. Donc, c'est quelqu'un qui va reconnaître ses limites et qui va faire, au fond, comme tous les pères, s'il va donner les moyens à son fils de se retourner un jour contre lui. Parce que tous les parents sont des apprentis sorciers. Tous les parents font en sorte que leurs enfants aient plus qu'eux, enfin, des parents dignes de ce nom. Et un jour, ça se retourne contre eux. Et c'est ce qui va se passer dans leur relation. De même que tout petit garçon idolâtre son papa, on est parfois un dieu à peu de frais avec ses jeunes enfants. Et puis après, il y a l'adolescence, il y a le moment où on se rend compte des limites de ses parents et on leur en veut de ces limites. Et après, on arrive parfois même à les mépriser pour ces limites-là. On décristallise ce qu'on avait cristallisé. On passe d'un excès à un autre, d'un excès d'honneur à un excès d'indignité. C'est l'histoire de tous les pères et de leurs fils, c'est l'histoire de Wolfgang et Léopold.
Alors comment expliquer, caractériser le génie de Mozart? Il a l'oreille absolue, on l'a vu pendant dans un épisode extraordinaire que vous relatez avec beaucoup d'art dans votre livre. Je cite le titre, « Juste après Dieu, il y a papa ». Il y a aussi cette mémoire et d'éthique, c'est une mémoire absolue. Donc, oreille absolue, mémoire absolue. Oui. Aussi, il y a le fait qu'il est arrivé pour sa maman et pour son père, avec six bébés précédents qui sont morts, six enfants qui sont morts. Donc, il y a la passion d'une mère qui a enterré six enfants et qui voit... un enfant vivre et la petite sœur, elle a 4 ans et demi de plus que Wolfgang. Donc cette passion, l'amour fou d'une mère et le dévouement absolu d'un père avec un enfant qui est baigné de lumière et de bonheur et d'amour, avec un enfant dont la mémoire est absolue et dont l'oreille est absolue. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des vecteurs qui peuvent peut-être expliquer ce génie qu'est Mozart?
Alors Mozart disait lui-même, et Haydn, sa grande admiration et son grand admirateur, l'autre musicien, Joseph Haydn, disait qu'il n'y a pas de génie sans amour.
Voilà.
En fait, je crois qu'aussi les parents de Mozart lui ont tellement donné et d'instruction et d'amour qu'ils en ont fait quelqu'un d'assez inadapté à la vie sociale. Adapté au génie, parce qu'il s'est mis à composer comme une fontaine, avec une facilité absolument incroyable, une science aussi absolument incroyable. Mais ils en ont fait aussi une sorte d'inadapté, parce que finalement, Mozart a 4, 5, 6, 7, 8 ans. Il est dans toutes les grandes cours des princes et des rois d'Europe, et il saute sur leurs genoux. Il est à tu et à toi avec Marie-Antoinette, qui est une petite fille, lorsqu'il va à Vienne. Il la demande en mariage d'ailleurs. Et en fait, il a cette idée qui va être après développée par les Lumières et la Révolution. Il pense qu'il est socialement l'égal de tout le monde. Et en fait, la vie va malheureusement lui apprendre que non, il est complètement supérieur en musique, mais on n'est pas dans une société égalitariste où il peut être considéré comme égal aux autres. Et tout d'un coup, il va se retrouver comme ça soumis aux lois du travail et de la société, c'est-à-dire un musicien à l'époque, c'est quelqu'un qui est employé par un prince, par un duc, par un comte. Ça fait partie de la domesticité. Et autant son père, Léopold, l'a accepté parce qu'il a toujours vécu dans ce monde-là, autant Mozart, qui a vu tellement de choses déjà enfant et qui a connu tellement de situations extraordinaires enfant, il ne l'acceptera jamais. Donc il va claquer la porte et il va dire à son père, tu m'as appris la liberté, mais toi, tu n'es pas capable de vivre libre. Moi, je veux vivre libre. Et il va être le premier musicien de l'histoire de la musique à vivre de sa plume, sans être affilié à une maison, sans être domestique. C'est pour ça, après, qu'il a aussi fait l'objet d'un culte chez tous les musiciens, parce qu'il a été le premier à larguer les amarres.
Alors, adulé, alors qu'il était enfant, Mozart n'a pas du tout supporté, lorsque devenu plus grand, adulte, il a vu que on l'adorait pas comme lorsque, parce que c'était un enfant rare, un enfant, une œuvre d'art. Lui-même, c'était pas tellement une personne, c'était une œuvre d'art. Mozart, oui. Petit, était une œuvre d'art. Et puis quand il est devenu plus grand, il est devenu plus prosaïque, normal, et ce succès qu'il avait étant enfant s'est évaporé, tout en laissant en lui cette vérité qu'il pouvait faire des choses extraordinaires. Et Haydn disait qu'il ne connaissait personne qui aille au niveau musical, artistique et génial de Mozart. Lui, son maître, Joseph Haydn, 1732-1809, donc il était plus âgé que lui. Eh bien, il a aussi vécu plus longtemps, parce que Mozart est mort à l'âge de 36 ans, je crois.
C'est terrible parce que Mozart, son génie, a été reconnu enfant parce que il était papillon à l'âge où on est chrysalide. Donc, effectivement, tout le monde remarquait. Mais quand il est devenu papillon parmi les papillons, puisqu'il était à l'âge où tout le monde est adulte, eh bien, son génie, entre guillemets, était plus visible. Vous savez, les gens n'ont pas tellement d'oreilles, ils ont plutôt des yeux.
C'est vrai.
Et donc, il a été complètement, tout d'un coup, obscurisé, en quelque sorte, mis de côté. Et il va beaucoup en souffrir. Et je crois qu'une des grandes souffrances de Mozart sera été d'être le seul à se rendre compte qu'il était Mozart. Enfin, le seul avec son père, qui avait toujours vu le génie de son fils et qui l'appréciait en plus, ce génie musical, de plus en plus. Et puis Joseph Haydn. Mais autrement, les contemporains ne se rendaient pas compte. Il a été enterré à la fosse commune. Il n'a même pas eu droit à une sépulture. Il n'avait pas d'argent. Et puis, ce qui est très, très cruel, c'est que 5 ans plus tard, il commençait à être une gloire européenne. Et 15 ans plus tard, une gloire mondiale. Et maintenant, il est devenu un mythe, un véritable mythe. Mais ça s'est fait après.
Quels sont les géants musiciens, musicaux du siècle? Quels sont ceux dont Mozart a engrangé l'art et le talent pour devenir... Parce qu'il s'est nourri. Il s'est nourri des autres.
Alors, il s'est nourri d'un des fils Bach, Karl-Emmanuel Bach, qu'il admirait profondément et qu'il a rencontré à Londres. Ensuite, il a découvert Bach l'Ancien, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le père Bach, Jean-Sébastien Bach, mais là, il était vraiment adulte. Autrement, bien sûr, tous les musiciens italiens, dans tous ses voyages en italien, donc le goût de l'opéra. Et puis c'est vrai que le grand maître, c'était Joseph Haydn, qui avait inventé la symphonie avec orchestre, et puis écrit des quatuors, et Mozart va écrire 41 symphonies et plusieurs quatuors qu'il va d'ailleurs dédier à Joseph Haydn. Et Haydn disait que les quatuors de Mozart étaient meilleurs que les siens. En fait, Mozart, je pense souvent à la phrase de Matisse. Alors, lorsqu'il parle de Picasso, il dit que la chose qu'il redoutait le plus, c'était que Picasso vienne dans son atelier et regarde ce qu'il est en train de faire, parce qu'il disait, moi, j'ai mis des années à faire ça, lui, il regarde 5 minutes, le lendemain, il imite, mais il fait du Picasso et c'est encore mieux. Et Mozart, c'était ça. C'est-à-dire, il captait immédiatement la nouveauté, le langage harmonique ou les raffinements de tel ou tel. Et il en faisait du Mozart.
Alors, est-ce qu'il, à un moment donné, il a été obligé de vendre peut-être des œuvres non signées pour que celui qui les achète mette sa signature en dessous, par manque d'argent et pour payer ses dettes. Par exemple, je pense à ce chef d'orchestre et compositeur autrichien Süssmayr Xavier, qui a fini le Requiem de Mozart.
C'était, en fait, c'est Mozart a 35 ans, il a plus que quelques semaines à vivre, et on vient lui commander un Requiem en lui disant que le nom du commanditaire ne serait jamais donné, qu'il fallait qu'il écrive ce Requiem, mais qu'il ne le signe pas. Alors aujourd'hui, on a identifié cet homme. C'était un baron qui venait de perdre sa femme et qui avait toujours fait croire qu'il composait des œuvres musicales qui avaient toujours été commandées à d'autres. Et Mozart va écrire la moitié du Requiem. Il meurt en écrivant le Lacrimosa, le déchirant Lacrimosa du Requiem. Et il y a juste des esquisses pour la suite. Et c'est Süssmayr qui est effectivement un de ses élèves et copiste. Qui, sous la demande de Constance Mozart, qui a besoin qu'on paye la suite de la commande pour pouvoir vivre, pour qu'elle puisse nourrir ses deux enfants, parce que c'est une question de vie ou de mort, et elle lui demande de finir le Requiem pour qu'on puisse le livrer. Donc c'était une vie difficile que celle d'un compositeur, comme on dirait aujourd'hui, freelance.
C'est vrai. Alors, parlons des femmes. Aloysia Weber, c'était une cantatrice d'une grande beauté. On dit d'elle qu'elle est superbe. Et il en tombe amoureux, éperdument, mais elle le dédaigne, cabotine. Eh bien, finalement, il épouse la sœur de cette Aloysia, qui est Constance, qui est plus douce et plus aimante. Et je n'en sais pas plus. Parlez-moi de cette Constance. Est-ce qu'elle était vraiment gentille, douce, comme on a envie de le lire?
Je le crois. Je le crois vraiment. Elle était la moins jolie des sœurs, mais elle était mignonne. Elle déchiffrait parfaitement la musique parce qu'elles étaient filles d'un baryton et copiste, toutes. Elle avait une très jolie voix puisque Mozart a écrit deux de ses plus beaux morceaux dans la messe en ut qui était écrit pour elle. Elle était vraiment aimante. Alors bien sûr, la famille Mozart, dont Léopold et puis la sœur Nanerl, l'ont détestée parce que, comme Wolfgang était un panier percé qui n'avait aucun sens de l'argent, ils espéraient que la femme qu'il épouserait compenserait. Or, elle était aussi un petit peu insouciante à ce niveau-là, quoi. Donc, elle n'a pas été spécialement bien reçue. Mais franchement, elle l'aimait. Il l'aimait d'ailleurs. Et après la mort de Mozart, elle a été remarquable. Elle a été remarquable parce que c'est elle qui a tout d'un coup réuni toutes les partitions, qui a fait en sorte de les éditer. Elle a élevé leurs deux enfants. Elle a fait en sorte que celui qui était doué pour la musique reçoive une belle instruction musicale. Et ensuite, elle a épousé un baron suédois qui était amoureux de Mozart plus que d'elle. C'était un couple à trois. Il y avait deux vivants et un fantôme. Et lui a écrit la première biographie de Mozart et a aussi continué le travail de Constance pour établir l'œuvre de Mozart, faire en sorte qu'elle soit éditée dans toute l'Europe. Et c'est vrai, quand elle est morte, au milieu de l'époque romantique, Mozart était devenu un mythe. Donc, elle a su être une épouse, mais elle a su alors... remarquablement aussi être une veuve.
Merveilleuse femme et merveilleuse veuve, un artiste ne peut pas demander plus.
Oui, c'est drôlement formulé, mais vous avez raison.
Oui, alors, qui a chanté majoritairement les opéras de Mozart? Et est-ce que Constance était aussi cantatrice?
Alors, elle était cantatrice au sens où elle avait une très très jolie voix, de la technique, et elle savait parfaitement déchiffrer, mais elle n'avait pas du tout la mentalité de combative et performative qui permet d'être cantatrice, donc elle préférait être dans l'ombre. Donc c'est deux de ses sœurs qui ont vraiment mené des carrières de cantatrice, mais elle était totalement fine musicienne. Les opéras de Mozart ont été créés par les troupes de grands chanteurs qu'il y avait à Vienne, à Prague. Et je pense qu'il a été très 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 bien servi d'emblée. Mm-hmm. Il faut dire aussi qu'il écrivait merveilleusement pour la voix, parce qu'il connaissait mm-hmm. parfaitement la voix humaine.
Mm-hmm. C'était un instrument dont il a démontré toutes les compétences par rapport à un instrument de musique.
Oui, et surtout avec un sens de ce que doit être la voix et de comment faire en sorte qu'on ne la casse pas et qu'on ne l'abîme pas en la faisant chanter. Beaucoup de musiciens classiques, parmi les plus grands, enfin les grandes chanteuses et les grands chanteurs, disent que Mozart c'est du miel pour la voix et que c'est carrément une hygiène de chanter régulièrement du Mozart parce que ça transforme la voix en instrument. Mmh. Et on est loin du cri, on est loin des grandes exclamations, on est loin des excès. On retrouve la vertu instrumentale de la voix.
Alors, il tombe malade. De quoi est-il tombé malade ? Si jeune.
Si jeune. Bon, d'abord, il faut dire qu'il a voyagé pendant 10 ans de sa courte vie de 35 ans. Et donc, il a été beaucoup malade, puisque les voyages l'exposaient aux dysenteries, aux scarlatines, à tous les maux qui couraient les chemins et les hôtels et les auberges et les cours d'Europe. Donc, il a été vraiment beaucoup malade. Donc, je pense que déjà, son capital de santé était bien entamé. Il était aussi bien entamé par le surmenage, parce que Mozart, pour gagner sa vie, celle de Constance, de ses enfants, travaillait énormément. En plus, on pense qu'il jouait, donc qu'il contractait des dettes de jeu. Et en plus, il était très coquet, parce qu'il n'était pas très beau. Et donc, il le savait, il n'était pas très grand non plus, il faisait 1m55. Et donc, il compensait en étant extrêmement élégant. Donc, il dépensait beaucoup d'argent pour apparaître en société, parce que ça lui était nécessaire. Et donc, voilà, il y a tout un surmenage. Et puis après, je crois qu'il y a vraiment une maladie pulmonaire qui va l'emporter.
Mmh. Alors, piano, clavecin, violon peut-être aussi ?
Violon. D'emblée, il joue du petit, il joue du violon et du clavier, que ce soit le clavecin ou le piano ou l'orgue. Mm-hmm. Il joue du violon et il va jouer de l'alto, c'est-à-dire ce violon plus grave. Et quand il fait de la musique avec d'autres, il prend plutôt l'alto, qui est quand même souvent la partie la plus difficile et ingrate à jouer dans un ensemble.
Produit déjà au public à l'âge de 7 ans ?
Oui. Ah oui, puis dans des conditions... C'est ce qu'on a beaucoup reproché à Léopold Mozart, en disant qu'il avait exhibé ses enfants comme des animaux de cirque. Mais pas du tout. D'abord, il y avait... Parce que les exhibitions se passaient dans la cour, mais carrément, on bandait les yeux de Mozart pour qu'il improvise, ou alors on couvrait les touches d'un tissu pour qu'il ne voit pas les touches. Mm-hmm. On lui chantait un air à la mode et il fallait qu'il improvise des variations, des développements. Donc, c'était vraiment des numéros de cirque, parce que tout le monde n'est pas musicien, hein, donc il fallait faire des numéros. Mmh. Et donc, on a beaucoup reproché ça à Léopold Mozart, mais en fait, c'est beaucoup plus complexe. Il n'avait pas moyen de gagner sa vie s'il abandonnait son poste, ce qu'il a fait, de vice-maître de chapelle à Salzbourg. Donc, il fallait payer les voyages, les déplacements, les hôtels, l'attente dans la ville pour être reçu par le Seigneur, les repas, etc. Et donc, il fallait produire les enfants et essayer de gagner quelque chose avec ça. Et c'est ce qu'il a fait. Et ensuite, la deuxième tournée de voyage, ça a été aussi pour que Mozart rencontre les plus grands compositeurs et les plus grands musiciens, histoire de continuer sa formation. Donc, c'était pas du tout un montreur d'animaux de cirque, Léopold Mozart. C'était un père investi qui, avec les moyens qu'il avait, essayait d'abord de faire reconnaître le génie de ses enfants, et ensuite de faire vivre toute la famille.
Vous avez parlé du génie de ses enfants. Il y avait la petite Nannerle, 4 ans et demi de plus que Mozart, qui était aussi extrêmement douée, mais lorsqu'elle a été présentée à l'issue d'un voyage par son père à des lieux où on pouvait les faire connaître, la petite a été refoulée parce qu'elle avait 12 ans et parce que finalement aussi c'était une petite fille. Ça a joué pour lui d'être un petit garçon, Mozart.
Oui, clairement. On ne voulait pas à cette époque qu'une jeune femme montre des dons artistiques. Je veux dire, si elle les montrait en tant qu'enfant, c'est bien, ça rentrait dans le cirque des virtuoses. Mais après, il fallait s'arrêter, il fallait juste prendre un mari et faire des enfants. C'est ce qui va se passer plus tard pour Fanny Mendelssohn, la sœur de Félix Mendelssohn. Mmh. Donc, oui, un destin condamné. Ce qui est formidable, c'est que pendant toute son enfance, elle n'en veut pas à son frère d'être, entre guillemets, plus applaudi qu'elle, parce qu'elle a tout à fait conscience à la fois de la valeur de son frère et de la sienne. Elle sait qu'elle est une superbe musicienne, mais elle sait aussi que son frère est absolument, lui, exceptionnel, et en plus, compositeur. Donc, elle n'en a jamais voulu à son frère de la différence de traitement dont elle était affectée. Après, plus tard, bien sûr, elle s'est un peu aigrie, et puis elle est devenue très jalouse de Constance Mozart, parce que finalement, Constance, elle devenait l'autre femme de la vie de Mozart. Mm-hmm. Or, elle, en tant que sœur, se voulait la femme essentielle de la vie de son frère.
Mm-hmm. Comment a-t-elle vécu, finalement, sa vie? Elle a fait beaucoup de ménage chez elle, s'occuper de la maison. Dans certaines scènes, on la voit sortir le balai à la main, les joues rouges d'agitation, et c'est pourtant, c'était une artiste très fine. Oui. Et pour le mariage, elle n'a pas réussi à épouser l'homme qui l'aimait et qu'elle a aimé. Et plus tard, elle a épousé quelqu'un pour se faire une raison, quoi.
Oui, en fait, elle s'est beaucoup dévouée à son père, à la différence de Wolfgang, qui lui a rompu à un moment avec son père, tandis qu'elle était d'une fidélité absolue à son père, comme leur mère est morte à Paris assez vite. Mm-hmm. Elle s'est vraiment occupée de son père, elle a sacrifié sa vie. Alors, comme vous dites, elle faisait ménage, mais elle donnait aussi des cours de piano, de clavecin, de solfège, pour apporter de l'argent au ménage qu'elle faisait, entre guillemets, avec son père. Et puis, c'est vrai qu'elle a voulu se marier, parce qu'elle avait déjà une trentaine d'années. À l'époque, c'était très, très vieux. Mm-hmm. Et le père, assez égoïstement, a dit non, il n'est pas du tout digne de toi. Et en plus, je pense qu'il était sincère, c'est-à-dire qu'il voulait le meilleur pour sa fille. Mais enfin, il ne voyait pas le temps qui passait. Comme souvent, les pères ne voient pas le temps qui passe sur leurs enfants. Et puis, il a fini par, comprenant qu'il l'accaparait et puis qu'il allait peut-être bientôt partir, il lui a trouvé un mari, un baron, etc., qui avait déjà plein d'enfants, qui avait déjà eu deux femmes qui étaient mortes. Et elle a finalement pu avoir un enfant et puis un mari. Puis après, celui-ci est mort assez rapidement et est revenue à Salzbourg, où elle a continué à vivre sa vie de musicienne, mais d'enseignante. Voilà, de professeur, mais plus de soliste virtuose. Mais elle était en même temps la femme qu'on venait voir aussi comme Constance pour parler de Mozart, pour essayer d'avoir des renseignements sur lui, pour commencer à écrire sa vie et puis même sa légende.
Alors, Eric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous pouvez nous indiquer un musicien de son époque qui a le plus œuvré dans le sens de Mozart? C'est-à-dire qui s'est inspiré, qui n'a pas fait comme, mais qu'on reconnaît dans certaines œuvres l'esprit de Mozart.
Bah écoutez, tout de suite après arrive Beethoven. On se demande d'ailleurs s'ils se sont rencontrés à Vienne. Tout de suite après arrive Beethoven, qui ne va pas écrire comme Mozart, qui va écrire comme Beethoven, mais avec une inspiration mozartienne extrême. Mais bien sûr Schubert, qui est sans doute le jeune Schubert, qui lui aussi va mourir à 37 ans, qui va être extrêmement inspiré par Mozart dans la dévotion de Mozart. Je crois que le culte de Mozart commence avec Schubert. Mm-hmm. Et puis très vite, Félix Mendelssohn, qui à mon avis est le plus mozartien. Lui, au début de l'époque romantique, il écrit avec cette allégresse et cette joie de vivre qu'il y a chez Mozart, mais une musique qui a des couleurs différentes et puis peut-être justement plus de romantisme que de... Mais il y a tout l'héritage classique qui vient de Mozart. Et puis après, bon, chaque génération rendra hommage à ce musicien. Vous savez, souvent quand on écoute des musiciens, on voit ce qu'ils cherchent. Mozart, lui, il a toujours trouvé.
Ah oui, ça c'est beau. Ça c'est beau. Et puis, peut-être que chez Beethoven, il y a aussi cette, cette veine différente, parce qu'à un moment donné, il était sourd et il avait une musique encore plus désincarnée, encore plus personnelle et plus alimentée de sa douleur.
Oui, Beethoven, c'est vraiment le premier immense compositeur romantique, parce que c'est dans des œuvres qui osent dire la douleur, qui osent dire le pathétique, qui osent dire les drames de la vie, alors que chez Mozart, je ne vais pas dire qu'on effleure, parce que ça donnerait l'impression que c'est superficiel, mais on n'insiste pas trop. Voilà. Ça peut être triste, il faut d'abord que ça soit beau. Donc ce n'est pas du tout la même philosophie. Et chez Beethoven, autant chez Mozart on sent le bonheur, autant chez Beethoven on voit le malheur qui cherche la joie. Parce qu'il y a une positivité chez Beethoven, ça finit par l'hymne à la joie de la 9e symphonie, mais avec une connaissance intime du malheur et puis cet aspect romantique. Mais il y a toujours la leçon de Mozart, c'est-à-dire viser la grâce, viser le bonheur. Il est là comme une lumière qui éclaire.
Tout à fait. Et alors, est-ce que vous avez envie, après ce travail magnifique sur Mozart, ce travail très inspiré, juste après Dieu, il y a papa, est-ce que vous n'avez pas envie de travailler, d'investiguer le monde d'un autre génie de la musique ?
Si, alors je vous m'avais deviné, mais je crèverais la gueule ouverte avant de le dire.
Alors mais non, mais c'est un moderne ou un de l'époque de Mozart ?
De l'époque romantique.
Ah, voilà, je l'ai bien
senti. Après, je ferai un moderne, mais oui, il y a...
Beethoven, je pense.
Il y a des musiciens avec qui j'ai une intimité de vie, dont j'ai aussi envie de parler. Puis c'est surtout que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi les musiciens c'est plus que de la musique, c'est une conception du monde, c'est une façon d'être dans l'existence, c'est un rapport aux autres, c'est le goût du sens du mystère, le sens de la joie, le sens de l'allégresse. Donc tout ça j'ai envie de le raconter, parce que c'est très important de le partager et de l'éprouver dans sa vie. Et peut-être en racontant d'autres vies, mais toujours avec un angle spécial, parce que là, finalement, jamais personne ne s'était penché sur le rapport père-fils à travers les Mozart. Parce que je parle de tous les pères et tous les fils, hein, par derrière eux. Il y a beaucoup de confidences personnelles qui sont cachées derrière cette histoire, ou plutôt qui nourrissent cette histoire. Parce que être un père, c'est une vocation, et je le connais. Être un fils, c'est un fait. Et donc souvent, le problème entre le père et le fils, c'est que le père a la vocation d'être père, mais le fils est fils de fait et ne voit pas spécialement de devoir ou d'obligation dans le fait d'être fils. Et donc il y a des moments où ça frotte, où c'est difficile.
Éric Emmanuel Schmitt, je vous remercie infiniment pour ce livre vraiment très inspirant, très inspiré, Juste après Dieu, il y a papa, et qui paraît aux éditions Albin Michel. Merci infiniment et à bientôt.
Merci. Merci, avec plaisir.
Merci.
Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Thank you.